Dans un univers multisocial, où les principales forces de cohésion interagissaient avec une complexité sans commune mesure avec l'apparente simplicité des dénominations, les chefs militaires sur qui l'on pouvait compter valaient plusieurs fois leur pesant de mélange. Les religions et le souvenir commun des tyrannies impériales étaient toujours présents dans toute négociation, mais les forces économiques finissaient par faire pencher la balance et le poids des armes formait une tare non négligeable. Elle était là dans chaque transaction et elle serait là aussi longtemps que les échanges commerciaux seraient régis par la nécessité. Nécessité de se procurer certains produits irremplaçables, comme l'épice ou les machines ixiennes. Certains spécialistes, comme les mentats ou les docteurs souk, ainsi que toutes sortes de talents pour lesquels un marché existait, bâtisseurs, concepteurs, artistes, main-d'œuvre ordinaire ou planiformés, dispensateurs de plaisirs exotiques. Aucune légalité commune ne pouvait embrasser un ensemble si complexe. D'où une autre nécessité logique, celle de disposer en permanence d'arbitres suffisamment musclés. Tout naturellement, au sein du gigantesque réseau économique, le rôle avait échu au Bene Gesserit. Miles Teg le savait. Il savait aussi qu'une fois de plus, on faisait appel à lui pour faire pencher la balance. Que ce rôle lui plaise ou non, cela ne faisait pas partie de la négociation.
« Ce serait différent si vous aviez ici de puissantes attaches familiales, » déclara Taratza.
Teg accepta cet argument sans rien dire. Sa femme était morte depuis 38 ans. Ses enfants étaient tous adultes, et à l'exception de l'une de ses filles, établie ailleurs. Il avait ici de nombreux intérêts personnels, mais pas d'obligations familiales. Taratza avait raison. Elle lui rappela sa longue et fidèle carrière au service du Bene Gesserit, citant au passage quelques-unes de ses victoires mémorables. Elle savait que la flatterie n'aurait que peu d'effet sur lui, mais c'était une introduction dont elle avait besoin pour pouvoir continuer.
« On vous a déjà parlé de votre ressemblance avec vos ancêtres, » dit-elle.
Il inclina la tête d'un millimètre ou plus.
« Particulièrement votre ressemblance tout à fait remarquable avec le premier Leto Atréide, le grand-père du tyran, » poursuivit Taratza.
Teg ne fit rien pour indiquer qu'il avait entendu ou qu'il avait une opinion. Ce n'était qu'une donnée déjà présente dans sa vaste mémoire. Il savait qu'il possédait les gènes des Atréides. Il avait déjà remarqué sa ressemblance avec Leto Ier lors d'une visite à la maison du chapitre. Quand il avait vu son portrait, il avait eu l'impression d'avoir un miroir en face de lui.
« Vous êtes légèrement plus grand, » dit Taratza.
Teg continuait de la regarder sans rien dire.
« Enfin, Bachar, vous pourriez au moins faire un petit effort pour m'aider. »«
C'est un ordre, mère supérieure ?»«
Allez au diable, ce n'est pas un ordre !»
Teg sourit calmement. Le fait que Taratza se permît une telle explosion devant lui en disait long. Elle n'aurait jamais fait cela en présence de gens à qui elle ne faisait pas entièrement confiance. Et elle ne se serait pas livrée à ce genre de manifestation affective avec quelqu'un qu'elle considérait simplement comme un subalterne. Taratza se laissa aller en arrière dans son fauteuil et leva les yeux vers lui en grimaçant un sourire.
« C'est bon. Je crois que vous vous êtes assez amusé comme ça. Patrine m'a dit que vous auriez un choc si je vous demandais de reprendre le service. Je vous assure que vous êtes indispensable à nos projets. »
« Quel projet, mère supérieure ?»«
Nous élevons en ce moment sur Gameux un Gola, Duncan Idaho. Il va bientôt avoir 6 ans et il est mûr pour l'éducation militaire. »
Teg laissa la surprise agrandir un peu ses pupilles.
« Ce ne sera pas une mission de tout repos, » reprit Taratza. « Je voudrais que vous preniez en charge dès que possible son entraînement et sa protection. »
« Ma ressemblance avec le duc Atréide, vous voulez vous en servir pour rétablir sa mémoire originale ?»«
D'ici 8 ou 10 ans, c'est exact. »«
Si longtemps ?» fit Teg en secouant la tête.
« Et pourquoi Gameux ?»
Son héritage Pranabindu a été modifié, sur notre demande, par le Bene Tleilax. Ses réflexes égaleront les plus rapides de notre époque. Pourquoi Gameux? Parce que le vrai Duncan Idaho y est né et y a grandi. En raison des changements opérés sur son héritage cellulaire, nous devons veiller à maintenir tout le reste aussi proche que possible des conditions originales.
Pourquoi faites-vous tout cela? Demanda Teg sur le ton d'un mentat avide de données.
Une fillette capable d'imposer sa volonté au grand vert a été découverte sur Rakis. Notre Gola aura son rôle à jouer là-bas.
Vous voulez les apparier ?
Je ne vous recrute pas comme Mentat. Ce sont vos capacités militaires et votre ressemblance avec le premier Leto qui nous intéressent. Vous savez ce qu'il faut faire, le moment venu, pour rétablir sa mémoire originale.
Vous désirez vraiment que je reprenne mon ancienne fonction de maître d'armes ?
Vous trouvez cette charge indigne de celui qui fut le bachar suprême de toutes nos forces armées ?
Mère supérieure, vous commandez et j'obéis. Mais je ne suis disposé à accepter ce poste que s'il comporte l'entière responsabilité de la défense de Gameux.
Ce détail est déjà réglé, Miles.
Vous avez toujours su ma manière de raisonner.
Et j'ai toujours compté sur votre loyauté.
Teg s'écarta de l'armoire où il était adossé et réfléchit un instant avant de demander
« Qui me préparera pour cette mission ?»
Beyonda, du bureau des archives, comme autrefois. Elle vous donnera un code pour communiquer avec nous.
Je vous préparerai une liste. De vieux compagnons d'armes, leurs enfants quelquefois. Je veux qu'ils soient déjà sur Gameux à mon arrivée.
Vous n'envisagez pas qu'ils pourraient refuser ?
Le regard de Teg parla pour lui.
Ne dites pas de bêtises.
Taratza gloussa en songeant, s'il y a une chose que les premiers Atreides nous ont apprise, c'est bien à produire des individus capables d'inspirer une dévotion et une loyauté à toute épreuve.
Patrine se chargera du recrutement, dit Teg.
Il n'acceptera pas de grade, je le sais, mais il devra recevoir la solde et les égards réservés à un colonel d'ordonnance.
Vous reprendrez bien sûr votre grade de bachar suprême, dit Taratza. Nous ferons en sorte...
Hors de question. Vous avez déjà Burt Mali. Inutile d'affaiblir son prestige en lui imposant d'obéir à son ancien bachar.
Taratza l'observa un instant avant de répliquer.
Nous n'avons pas encore désigné Burt Mali pour occuper...
Je le sais parfaitement. Mes anciens compagnons d'armes me tiennent régulièrement informés de la vie politique de l'ordre. Mais vous et moi n'ignorons pas que ce n'est qu'une question de temps. Burt Mali est le meilleur choix.
Elle ne put qu'accepter ce jugement. C'était plus qu'une computation de Mentat militaire. C'était l'opinion de Miles Teg. Mais une autre pensée la frappa.
« Vous étiez donc déjà au courant de nos dissensions au Conseil ?»
accusa-t-elle.
« Et vous m'avez laissé,
Mère supérieure. Si je pensais que vous alliez créer un nouveau monstre sur Rakis, je vous l'aurais dit. Vous faites confiance à mes décisions, je fais confiance aux vôtres. »«
C'est vrai, Miles, » dit Taratza en se levant. Je crois que nous avons perdu le contact depuis trop longtemps. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis rassuré à l'idée que vous reprendrez bientôt le collier.
Le collier. C'est bien le mot. Nommez-moi Bachar en mission spéciale. De cette manière, quand Burt Mali l'apprendra, il n'y aura pas de questions stupides.
Taratza sortit des plis de sa robe une liasse de papier ridulien qu'elle tendit à Teg.
Ils sont déjà signés. Vous remplirez votre engagement. Toutes les autorisations sont là, avec les titres de transport et le reste. C'est moi qui vous donne vos ordres. Vous ne devez obéir qu'à moi. Vous êtes mon bachar, comprenez-vous ?
Ne l'ai-je pas toujours été ?
C'est plus important maintenant que jamais. Veillez à la sécurité du Gola et instruisez-le bien. Il est sous votre responsabilité. Je vous couvrirai sur ce point contre n'importe qui.
Je crois savoir que c'est Shvangyu qui commande sur Gameux.
J'ai dit contre n'importe qui, Miles. Ne faites pas confiance à Shvangyu.
Je vois. Vous déjeunerez avec nous ?
Ma fille a... Pardonnez-moi, Miles, mais il faut que je rentre dès que possible. Je vous envoie Beyonda sans délai.
Teg la raccompagna jusqu'au pas de la porte, échangea quelques plaisanteries avec d'anciens élèves qu'il reconnaissait dans son cortège, et la regarda partir songeusement.
Une voiture blindée les attendait un peu plus loin dans l'allée.
C'était un tout nouveau modèle, vraisemblablement amené avec eux sur l'Ernaeus.
Sa vue le mit mal à l'aise.
Il fallait que ce soit urgent.
Taratza avait jugé nécessaire d'accomplir en personne ce travail de messagère, sachant les conclusions qu'il en tirerait. Connaissant les rouages intimes du Bene Gesserit, il ne pouvait manquer de computer certains événements récents. Les dissensions qui avaient éclaté au sein du Grand Conseil Bene Gesserit étaient bien plus profondes que ne l'avaient suggéré ses informateurs.
« Vous êtes mon bachar,
Il feuilleta la liasse de documents et d'autorisations spéciales. Tous les papiers portaient déjà le sceau et la signature de Taratza. La confiance que cela impliquait ne faisait que s'ajouter à d'autres choses qu'il ressentait et qui accentuaient son malaise. « Ne faites pas confiance à Shvangyu. »
Il glissa les papiers dans sa poche et partit à la recherche de Patrine.
Il allait falloir le calmer et le mettre au courant. Ils discuteraient ensuite pour savoir à qui il devait faire appel. Déjà une liste s'ébauchait dans sa tête. C'était une mission dangereuse. Seuls les meilleurs devaient en faire partie. Hélas, il faudrait transmettre la responsabilité du domaine à Firus et à Dimela. Il y avait tant de détails à régler. Tout en traversant la maison à grands pas, il sentit son pouls s'accélérer. Croisant un garde de la maison, un de ses anciens soldats, il s'arrêta.
« Martin, fais annuler tous mes rendez-vous de la journée. Cherche ma fille. Dis-lui de venir me rejoindre tout de suite dans mon bureau. »
La nouvelle fit rapidement le tour de la maison, puis du domaine tout entier. Serviteurs et familiers, sachant que la révérende mère supérieure venait d'avoir un entretien privé avec lui, établirent d'eux-mêmes un barrage pour le protéger de tout ce qui aurait pu distraire son attention. Sa fille, Dimela, l'interrompit quand il voulut lui faire la liste de tous les travaux à mener à bien dans les fermes expérimentales.
« Père, je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. »
Il se trouvait dans la petite serre attenante à la chambre où travaillait Teg. Les restes d'un déjeuner hâtif étaient sur un plateau posé au bord d'une table encombrée de pots. Le registre de Patrine était debout contre le mur derrière le plateau. Teg regarda vivement sa fille. Elle lui ressemblait de visage mais non de taille. Un peu trop anguleuse pour être une beauté, elle avait cependant fait un bon mariage. Dimela et Firus avaient trois beaux enfants.
« Où est Firus ?» demanda Teg.
« Il surveille l'ensemencement de la métairie sud. »«
Ah oui, Patrine m'en a parlé. »
Teg lui sourit. Il avait toujours été secrètement content que Dimela refuse les exhortations du Bene Gesserit. Elle avait préféré épouser Firus, natif de Lernaeus, et demeurer dans l'entourage de son père.
« Tout ce que je sais, c'est qu'on t'a demandé de reprendre du service, » dit-elle. « Est-ce que c'est une mission dangereuse ?»«
Sais-tu que tu viens de parler exactement comme ta mère ?»«
C'est bien cela, il y a du danger. »« Maudite sœur, tu n'en as donc pas fait assez pour elle ?»
Il faut croire que non.
Elle fit volte-face au moment où Patrine pénétrait dans la serre par la porte du fond. Il l'entendit murmurer en passant au vieil officier d'ordonnance.
Plus il vieillit et plus il ressemble lui-même à une révérende mère.
À quoi d'autre pouvait-elle donc s'attendre? Se demandait Miles Teg. Fils d'une révérende mère et d'un obscur fonctionnaire du combinat des honnêtes aubermarchands, il avait grandi dans une maison où tout vibrait au diapason du Bene Gesserit. Depuis son plus jeune âge, il lui était constamment apparu que les allégeances de son père au réseau commercial interstellaire du Chom s'effaçaient chaque fois que sa mère avait une objection à faire. Cette demeure avait été celle de sa mère jusqu'à ce qu'elle meure, moins d'un an après son mari. L'empreinte de ses goûts était partout autour de Teg. Patrine s'arrêta devant la table encombrée de pots.
« Je suis revenu chercher mon registre, » dit-il. « Avez-vous ajouté des noms ?»«
Quelques-uns. Tu ferais bien de t'y mettre sans attendre. »«
Oui, Bachar. »
Patrine exécuta un demi-tour réglementaire et repartit par où il était venu en faisant claquer le registre contre sa cuisse.
« Il commence à saisir l'esprit, lui aussi, » se dit Teg.
Une fois de plus, il laissa errer son regard autour de lui. Cette demeure était toujours la demeure de sa mère. Après toutes les années qu'il avait passées ici, le foyer qu'il avait fondé, la présence de sa mère était la plus forte. La serre, c'était lui qui l'avait construite. Mais le bureau à côté, c'était la pièce où elle se retirait pour travailler. Janet Roxbrough, des Roxbrough de Lernaeus. Le mobilier et le décor, tout cela c'était elle. Taratza l'avait vue tout de suite. Sa femme et lui avaient apporté quelques modifications superficielles, mais l'empreinte profonde était celle de Janet Roxbrough. Pas trace de truitesse dans sa lignée. Quelle aubaine pour le Bene Gesserit. La seule chose étrange, c'était qu'elle avait épousé Loshi Teg et passé toute sa vie tranquillement ici.
Un paradoxe incompréhensible jusqu'à ce que l'on s'avise que le programme génétique des sœurs n'était pas à une génération près. Elles ont encore eu ce qu'elles voulaient, se dit-il. Elles m'ont gardé en réserve pendant toutes ces années, juste pour l'occasion présente.